marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
C'est donc si passionnant l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Les classes populaires dans le monde rural, une grande enquête dans le Germanois.
Les sociologues qui s'occupaient des mondes ruraux et de l'Europe, eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'était comment ces sociétés rurales allaient se transformer sous l'effet de l'ouverture, de la mondialisation, de l'ouverture des frontières et surtout des changements techniques. Et il y avait tout un ensemble de faits qui se passaient à cette époque qui faisaient que les campagnes étaient extrêmement turbulentes. D'où peut-être ces grandes enquêtes qui ont été lancées par le CNRS à cette époque.
Françoise Zonabend, on est si vite oublié de nos jours. C'est une plainte qu'on entend souvent. La zone enclavée que nous allons parcourir et qui est à la fois rurale et industrielle ne peut pas dire qu'elle a été négligée par les chercheurs. Autour de 1970, un groupe de dames du CNRS, tout étonnantes et pionnières, s'y était établi pendant une dizaine d'années avant de publier plusieurs maîtres livres, dont Une campagne voisine. C'était l'époque des grandes enquêtes pluridisciplinaires, Pleuzévette en Bretagne, l'Aubrac, les Baronnies, etc. Le chantier était dominé alors par l'ethnographie. 50 ans plus tard, un autre collectif d'enquête revient dans une zone analogue, élargie toutefois. On n'a toujours pas dit où. Elle est composée de sociologues. Françoise Zonabend, qu'on vient d'entendre, qui appartenait à cette première équipe, en appelait déjà à cette nouvelle priorité en 1970. Elle disait qu'il fallait faire toute leur place au changement. Les classes sociales sont transformées. Par exemple, les agriculteurs argentés se sont passablement embourgeoisés. En même temps, les sociologues ne leur accordent plus le même rôle central qu'autrefois. D'ailleurs, les rapports entre les différentes classes ont beaucoup changé sous l'effet de contraintes venues de loin. Cependant, tout le monde continue de se connaître, ce qui fait que les façons d'être demeurent différentes de ce qu'elles sont dans la France urbaine ou périurbaine. Le germanois, c'est le germanois. Vous avez dit le germanois. Les enquêtes prennent souvent la précaution d'employer des noms d'emprunt. Ce qui va être dit aujourd'hui va peut-être provoquer des surprises, et aussi, chez certains, l'envie de jouer. Mais où peut bien être ce germanois?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Gilles Laferté, le premier de nos invités, faut pas compter sur lui. Bonjour Gilles Laferté. Faut pas compter sur vous pour dire où est ce germanois. Par contre, vous pouvez expliquer qu'un pack s'est jeté sur le germanois il y a de cela quelques années. Et pour plusieurs années, vous étiez combien de chercheurs?
Ben bonjour, oui, nous étions 12 et effectivement à enquêter sur ce germanois, et c'est vrai que c'est intéressant de repartir des propos de Françoise Zonabend, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions et qu'on a essayé de rapporter dans cet ouvrage. Et il me semble que l'un des premiers résultats de cette enquête, c'est essayer de travailler sur l'articulation entre les groupes sociaux et le lieu où ils résident, avec par exemple 43% de cadres ou de professions intellectuelles à Paris et simplement 7% dans les zones rurales. Et l'autre point qui paraît important, c'est aussi de changer un peu les lunettes de regard sur ces espaces ruraux à distance des villes et y importer un vocabulaire classique de la sociologie, et d'où cette affirmation autour des classes sociales, du partage de modes de vie, avoir un vocabulaire classique pour comprendre les groupes sociaux et les tensions qui se jouent.
Groupes sociaux, classes sociales, vous avez déjà employé les deux mots, vous n'avez pas donné le titre de ce livre collectif « Monde ruraux ». Et classe sociale, c'est aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Quand même, juste une question très gilet jaune, hein, comme question. Vous n'êtes pas gêné de parler à la place des enquêtés?
Alors, nous ne parlons pas à la place des enquêtés, nous rapportons leurs paroles et nous essayons un travail d'objectivation, d'interprétation, de repositionnement de leurs paroles, qui n'est pas en soi une information neutre, qui est repositionnée à leur position sociale.
Et la vôtre? Parce que il n'y a pas chez certains de vos enquêtés, enfin ceux qui voudraient bien obtenir de l'estime de vous, voire de la complicité, une manière sous-entendue de vous expliquer « Oh, on est un peu pareil, reprenez un petit peu de clafoutis préparé par madame ».
Alors si, justement, tout l'art de l'enquête aujourd'hui est justement de jouer, on pourrait dire, de son corps social, c'est-à-dire de ses appartenances sociales, des connivences qu'on peut avoir, et donc oui, le sociologue joue de ça. D'où l'intérêt d'une enquête collective, puisqu'il y a différents profils sociaux des enquêteurs qui peuvent justement jouer d'une proximité, soit avec une socialisation dans un village de leur enfance et qu'ils connaissent bien, soit une proximité avec des franges plus culturel, soit une proximité avec des mondes économiques. Et donc, dans les 12 enquêteurs que nous avons effectivement un camailleux de différences positions sociales, au-delà des professions communes. On est tous sociologues, chercheurs.
Mais je vais être démagogue jusqu'au bout. Il y en a beaucoup qui viennent des classes populaires. Parce que les classes populaires, vous avez dit que dans le germanois, c'était particulièrement important.
Alors, beaucoup qui viennent des classes populaires dans les mondes académiques, non. Dans les sociologues, il y en a, mais l'origine sociale des disciplines dans le cadre de cette enquête, oui, il y a des personnes qui viennent des origines populaires.
Parce que chapeau bas devant la casquette. En même temps, dans ce germanois, cette zone rurale enclavée, dont on dira qu'elle est dans le centre-est de la France, les fractions supérieures de la bourgeoisie, elles, sont peu nombreuses.
Alors voilà, il y a une structure sociale qui est singulière aux espaces ruraux, avec effectivement une partie de catégorie supérieure, mais qui est beaucoup plus en passage, c'est-à-dire que les anciens notables ont peut-être gardé dans la famille un château, mais tiennent plus l'économie locale ou le pouvoir local, c'est un château au volet fermé de villégiature. Il y a des cadres supérieurs qui s'occupent des unités productives dans un grand groupe, ou des agences d'un crédit agricole ou d'une banque. Et donc il y a des franges supérieures, mais qui sont de passage dans une stratégie de carrière où ils vont avoir des postes après ailleurs.
Donc, et les agriculteurs dont, à l'époque de la première enquête sur la région, ils occupaient une place centrale, ils sont encore, dites-vous, 800 chefs d'exploitation, et ils sont où dans l'échelle sociale ?
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est si on les prend à l'échelle locale, on pourrait les qualifier d'une bourgeoisie économique ou d'une petite bourgeoisie économique, dans le sens où ils ont, c'est comme s'ils étaient un peu des cadres à Clichy-sous-Bois, l'écart avec les zones rurales des personnes qui ont des positions d'entrepreneurs ou d'agriculteurs est important. Ils jouent donc la fonction de cadre d'encadrement dans les postes d'élus, dans les responsabilités des associations.
Mais donc, ils employaient carrément le mot d'agriculteur argenté, d'agriculteur embourgeoisé. Juste au moment où la FNSEA, sans dire d'enfiler des gilets verts, explique « nous sommes stigmatisés ».
Alors justement, leur stigmatisation, elle vient sans doute en partie de d'autres catégories sociales qui regardent leur façon de produire ou leur enrichissement comme en posant la légitimité de leur position sociale à l'échelle locale. Ça va être la taxation de pollueurs, ou ça va être la taxation de profiteurs de subventions, ou des choses comme ça, alors qu'eux-mêmes se pensent comme des entrepreneurs qui doivent vivre correctement face aux investissements qu'ils ont engagés, face au projet politique qui a été de la modernisation agricole, et donc ils ont été les très bons élèves d'une politique agricole qui aujourd'hui est remise en cause.
Alors, vous parlez de la politique agricole commune, vous avez employé, vous en gardez la responsabilité, le mot de profiteur, mais cette enquête que vous avez menée dans le germanois montre que les contraintes venues de loin, ou les facilités venues de loin, jouent beaucoup.
Oui, c'est-à-dire que la structuration sociale dans un espace local n'est pas autonome, ne se joue pas qu'à une échelle locale. C'est des contraintes à longue distance qui peuvent être des marchés, qui peuvent être des politiques publiques, qui façonnent la mobilité sociale dans un espace local. Et donc la politique publique autour de l'école, la politique publique autour des hôpitaux, la politique publique autour de l'agriculture font émerger des groupes et positionnent des groupes dans un espace ici rural de manière singulière par rapport à l'homogénéité rêvée de la France. Les classes sociales sont réparties de manière très différenciée selon le lieu de résidence.
Oui, l'État n'homogénéise pas. Et à l'État, on reproche beaucoup de fermeture. Tenez, là, on a mêlé un écho de la fermeture de la maternité de la commune centre de notre germanois. Et les extraits d'un film de Luc Moulet, le grand cinéaste, viendra nous raconter sa France, d'ailleurs, vendredi prochain.
Voici la grande rue. Mario ne compte que 4 maisons et 28 habitants, tous parents. Mais il possède une école dont voici la baie vitrée. 4 élèves seulement, et encore, la fille de droite a dépassé l'âge. Elle n'est là que pour faire nombre. Plus que 3, et l'école fermerait. Son petit frère, le garçon de gauche, irait en pension.
D'ici, tout le monde redoutait cette fermeture, jugée pourtant aberrante dans un secteur géographique déjà très isolé. Ce matin, la plénitude du petit Johan contrastait avec l'ambiance lourde à la maternité.
C'est une petite maternité familiale. En plus, on est loin des grandes villes. Donc c'était très assez pratique. Il y a proximité, en plus il y a un personnel super. Il nous encadre bien, il nous conseille bien.
La gorge nouée par l'émotion, les personnels ne voudront d'ailleurs pas exprimer leur tristesse et leur colère devant la caméra.
À cet instant précis de notre émission sur le Germanois, intervient Lorenzo Barustella. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes une douzaine, on n'a pas cité Bruno, Michy, Renaï, qui font partie du quatuor de tête avec Gilles Laferté. Et vous, vous êtes intéressé à ce qui se passait autour des fermetures provoquées par l'État dans les classes. On pourrait penser, naïvement, c'est d'ailleurs ce que racontent les médias quotidiennement, que les instituteurs sont mobilisés aux côtés des parents d'école pour défendre les classes dans les villages.
On pourrait le penser. Je pense que cette question des fermetures scolaires, elle est complètement en lien à ce que vous évoquiez avant, à savoir la construction localisée des positions sociales et comment il y a des médiations qui viennent des milieux économiques et des politiques publiques et donc des milieux étatiques et institutionnels qui contribuent à façonner ces rapports sociaux localisés sans jamais les déterminer complètement, mais qui en prennent part importante dans cette détermination.
Alors en clair.
En clair, on a en France un ensemble de politiques publiques de rétraction de l'État depuis maintenant au moins la fin des années 60. Et dans le domaine scolaire, dans le domaine de l'éducation, ça s'est traduit dans les milieux ruraux peu peuplés comme le germanois par un très grand nombre de fermetures scolaires qui ont d'ailleurs tendance à s'accélérer depuis le début des années 2000, s'accélérer beaucoup plus vite que le déclin de la démographie et qui donne lieu à des réactions localisées parfois... avec des résistances importantes. Ce qui m'était sauté aux yeux lors de notre travail collectif, c'était combien les instituteurs de village n'étaient pas systématiquement mobilisés auprès des familles pour lutter contre les fermetures scolaires, mais dans certains cas pouvaient soit fermer les yeux, soit même être carrément favorables aux fermetures.
Alors on continue à pratiquer l'anonymisation. Ce texte que voici, c'est le témoignage de Benjamin, enfin appelons-le Benjamin, dans le germanois, toujours le germanois. Il a 34 ans et il est directeur de pôle scolaire.
Pour l'enseignant, ce n'est pas simple du tout. Même s'il est d'accord avec les parents, il n'est pas censé dire quoi que ce soit. Donc on est partagé. D'un côté, je comprenais les parents et je voulais vraiment me battre avec eux. D'un autre, je savais que l'inspecteur à Saint-Germain n'allait pas trop aimer ça, si ça se savait, et qu'après, il allait me mettre des bâtons dans les roues. Je ne suis pas fou en plus, je ne vais pas me faire taper sur les doigts par ma hiérarchie. Donc, même si je ne suis pas d'accord en tant que citoyen, j'obéis. Je suis fonctionnaire et on n'a pas le choix.
Enfin, fonctionnaire en mobilité aussi.
Fonctionnaire en mobilité, effectivement.
C'est-à-dire
ce que je montre dans le travail, c'est qu'il y a plusieurs types d'enseignants, qu'il faut désagréger le groupe en fait, et qu'il y a des enseignants qui sont très insérés localement et qui vont être ceux les plus proches des catégories populaires locales qui peuplent cette campagne et qui vont se mobiliser le plus facilement contre les fermetures scolaires. Là où on a d'autres enseignants qui ont des trajectoires professionnelles, des formations différentes, souvent plus jeunes, qui sont passés par l'UFM, qui n'ont pas forcément fait les écoles normales, moins anciens, moins militants souvent, et qui sont là... un peu par contrainte, ce qui confirme d'ailleurs les données statistiques nationales où on a dans les mondes ruraux beaucoup plus d'enseignants plus jeunes qui n'ont pas nécessairement choisi leur affectation et qui n'attendent qu'une chose, pour certains d'entre eux en tout cas, c'est de pouvoir repartir sur un pôle urbain ou voir.
C'est-à-dire que vous parlez des contraintes venues de l'extérieur. L'éducation nationale va dire à tel ou tel directeur de pôle scolaire, calmez vos ardeurs, pensez à vos mutations.
Est-ce que ça prend la forme directement de calmer vos ardeurs, penser à vos mutations? Ce que moi j'ai pu observer dans le germanois, c'est qu'au niveau de ce qu'on appelle le mouvement départemental des enseignants, il y a une petite réforme qui a été introduite à la fin des années 90, avec un système de bonification de points. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en gros, les enseignants qui voient leur classe fermée ont un système de bonification, c'est-à-dire plus de points, donc plus de chances de se voir pouvoir revenir à la capitale régionale, et donc des intérêts professionnels directs à la fermeture.
La capitale régionale où habite le responsable départemental du principal syndicat.
Le SNUIPP, en effet, qui est, c'est des responsables syndicaux qui sont aussi très éloignés socialement et spatialement des catégories populaires qui peuplent ce germanois, et donc des intérêts sociaux très, très divergents.
Qu'est-ce qu'on s'était dit, Gilles Laferté, ne pas employer des mots compliqués. J'en introduire un de mon propre chef que vous employez, autochtonie.
Alors,
parce que là, on entend parler des comportements des membres des groupes sociaux intermédiaires qui sont marqués par la mobilité. Et qui pensent à partir. Autochtonie, ça joue, l'autochtonie, le fait d'être autochtone, d'être d'origine.
Alors, ça joue ou ça peut ne pas jouer. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur un ensemble de scènes, le marché du travail, même le marché matrimonial, un ensemble d'éléments où l'autochtonie peut être payante, c'est-à-dire des relations, des réseaux personnalisés de parenté qui permettent d'accéder à des emplois par connaissance ou des réseaux d'amitié qui permettent, et c'est le cas de beaucoup, notamment dans les classes populaires, qui est une ressource particulière dans ces espaces, mais qui fonctionne ailleurs pour d'autres groupes sociaux. L'autochtonie n'est pas le monopole des classes populaires.
Ni du germanois, vous avez dit germanois, avec tout ça, on ne sait toujours pas où on est. Enfin, je vous donne un indice quand même. La petite ville qui est le chef de file de cette petite région, il semble qu'elle ait été habitée par Barbara.
Je sais, ça fait longtemps que je n'ai vu tes rives. La rumeur du ruisseau et puis le chant des grives à Châtillon-sur-Seine quand on partait Nelly, comme deux oiseaux chassés qui retrouvent leur nid. Nous marchions tous les deux pas de l'eau dans la neige. Tu m'apprenais les mots et les noms des oiseaux. La province était belle, nous promenions sous France. Me voilà revenu sur les terres de l'enfance. Me revient en mémoire aux sanglots de l'hiver. Toi, la fille des bateaux, la fille de militaires. De cette époque morte où les gens savaient lire. Oui, toi, la littéraire qui m'a appris à écrire. Toi qui m'as accueilli, oui, bras ouverts à la table. Toi qui bordes à mon lit à me conter des fables. Toi qui, je me souviens, connaissais la nature. Des fruits, des terres, toi qui faisais des confitures.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Il a été question des instituteurs et des institutrices dans cette chanson, quand même, à y bien réfléchir. Je me demande si c'est de Barbara, le mystère s'épaissit. Nous sommes toujours autour du livre Les mondes ruraux et les classes sociales aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et l'un des pilotes de ce livre, Gilles Laferté, est avec nous. Si on parlait des possibles maintenant, et pas seulement de la mobilité des gens qui travaillent, les possibles des enfants. Les enfants des agriculteurs, les 800 chefs d'exploitation qui demeurent, et dont vous disiez qu'ils étaient argentés, pour beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils deviennent? Où vont-ils à l'école?
Alors, juste avant de venir sur ces enfants, le germanois n'est pas, on fait pas une sociologie du germanois, je tiens à insister là-dessus, on fait une sociologie d'une configuration sociale qui se reproduit. Donc, le lieu en lui-même, on s'en fiche un peu.
C'est, les auditeurs se demandent toujours où c'est.
Oui, mais il y en a plein des germanois. Il y en a 10, 20, 30. La France est peuplée dans les zones rurales de germanois, c'est-à-dire une configuration sociale où il y a moins de classes supérieures, notamment dans les franges culturelles, et beaucoup plus de classes populaires, notamment dans les fractions ouvrières. Et donc, les enfants d'agriculteurs, dans cette zone où les agriculteurs sont aussi de manière spatialisée très différenciée entre la Beauce, les Cévennes ou l'Alsace et la Bretagne, selon les types d'agriculture, on n'a pas les mêmes profils d'agriculteurs. Donc c'est un groupe qu'il faut éclater. Effectivement, dans cette zone d'enquête, ce sont beaucoup des céréaliers qui ont tiré les bénéfices de la politique de modernisation agricole, du productivisme. Et donc les enfants agriculteurs sont dans une logique où l'offre scolaire s'est démultipliée, la démocratisation scolaire a fait son œuvre, ou la massification scolaire, et donc il joue cette carte de la massification scolaire avec les possibles scolaires qui sont ouverts, mais avec une relative retenue, puisqu'on cherche toujours un repreneur, et donc du coup on va spécialiser ceux qui réussissent le mieux dans les études vers les filières plutôt techniques ou scientifiques, au cas où un repreneur ne se dessine pas, qui aurait la possibilité de faire des études agricoles, puisse reprendre. Donc il y a toujours cette tension entre l'ouverture possible des offertes par l'école, et qui est un vrai changement par rapport au système des années 60, et la nécessité de trouver un repreneur. Donc là, il y a
l'autochtonie. Si je peux dire, le maintien de la famille dans l'exploitation. Et ils sont très peu nombreux, mais les enfants de la bourgeoisie supérieure, ceux qui, dans une usine de la région ou proche de la région, vont occuper un poste de cadre supérieur, où vont-ils à l'école? Il y a un collège, il y a un lycée à Saint-Germain-de-Germanois.
Voilà. Alors,
mais c'est pas là qu'ils vont aller.
Voilà, pour beaucoup, on retrouve le même système que dans les grandes agglomérations, puisque ce sont des personnes qui sont en passage, selon les, puisque les unités industrielles ou les postes appartiennent à des grands groupes, et donc ils sont là pour quelques temps. Ils ne délocalisent pas toute la famille, ou alors ils vont habiter dans la capitale régionale et faire la route pour aller se positionner dans leur poste de travail, mais vont préserver leurs enfants de ce qu'ils estiment être une carrière scolaire moins bénéfique, et donc pour garder le lien à la centralité.
Et après, ils vont acheter une grande maison de campagne.
Voilà, et donc
dans le germanois.
Voilà, ceux qui s'installent parce que
c'est tellement charmant, c'est beau le germanois.
Oui, il y a un goût bourgeois pour la campagne, et donc c'est les usages sociaux de cette campagne qui sont différenciés. Mais pour les enfants, beaucoup de cette frange supérieure va essayer de pas scolariser au moment du lycée et bien sûr des études supérieures.
Les enfants des classes populaire. Alors, certains n'ont pas le même capital culturel, très certainement. Je disais que c'est beau, le germanois, c'est beau parce que il y a des bois. Et est-ce que les métiers du bois offriraient un avenir ouvert ?
On a un métier qui est en voie de disparition. Si vous voulez, au niveau des charges, on est au coefficient 13,5, c'est le plus haut coefficient de charge. Il y a moins de jeunes qui veulent le faire, ça se comprend, parce que c'est un métier qui est difficile et puis qui est mal rémunéré. Et puis un jeune qui commence dans la vie, il peut pas s'installer directement, le matériel est tellement cher qu'il faut avoir déjà de l'expérience. Pour avoir de l'expérience, il faut avoir pratiqué. Pour pratiquer, il faudrait être salarié à un moment. Il faut se mettre dans le bain, il faut pas regarder les heures, il faut travailler par tous les temps.
Alors, dans les médias, on a toujours une représentation fermée des situations. Votre livre sur les classes populaires dans les mondes ruraux, édition de l'EHESS, il a le mérite de fournir beaucoup de beaux portraits. Et je voudrais que vous nous racontiez, Gilles Laferté, puisque vous parlez à sa place, et vous avez dit pourquoi. Et qui est Éric Le Bûcheron ?
Alors je parle doublement à la place d'eux, puisque ça a été une enquête faite par Julien Gros. Et donc Éric, sa trajectoire est très intéressante, parce que justement il est fils d'ouvrier, petit-fils de charbonnier. Et donc l'idée, c'est que grandir dans un village n'offre pas les mêmes possibles professionnels que grandir dans une grande ville, mais en étant des classes populaires. Donc là, c'est tout le propos du livre. Et donc c'est quelqu'un qui passe un CAP de tourneur, qui a des difficultés d'abord à l'école, il le dit lui-même, et la plupart de ses confrères de même position sociale sont dans des positions équivalentes, et il pense un jour trouver un travail dans les usines du coin. Ça marche un temps, mais il se frotte aux difficultés du marché du travail. Donc il a un poste au départ chez un petit artisan, il est content, ça marche bien pendant 5 ou 6 années. Ensuite, il a un problème puisque l'entreprise elle-même ferme, donc il se déplace vers une usine de production du charbon, il devient syndicaliste, il s'affronte au marché du travail. Et là, il y a un espace des possibles qui est offert à lui, qui est autour du bûcheronnage. Pourquoi ? Parce que faire son bois, ou autoconstruire sa maison, ou avoir un potager, un ensemble d'éléments qu'on pourrait qualifier d'éthos du fer, ou en tout cas ce goût de la matérialité, est particulièrement développé, particulièrement du côté masculin dans les classes populaires. Là aussi, il y a un aspect très genré. Et donc, du coup, la possibilité, on fait d'abord un camion de bois avec l'entreprise du coin qu'on connaît, qui est plus ou moins proche socialement de soi. Et progressivement, l'espace des possibles va offrir la possibilité de s'installer comme un indépendant, puisque les bûcherons, là aussi, il y a une logique assez importante qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des salariés au départ et qui deviennent indépendants parce que les coûts sociaux deviennent importants sur ces salariés. Donc les entreprises de bûcheronnage incitent à s'installer comme entrepreneurs forestiers. Et donc c'est une opportunité offerte, non seulement par le savoir-faire des classes populaires ouvrières des espaces ruraux et ici des forêts, et donc un travail à faire qui est possible et accessible pour ces classes populaires.
Vous avez noté qu'il y a du bois, il y a du fer dans cette région. C'est un indice supplémentaire pour qui continue notre petit jeu. Où est le germanois ? Vous n'entendrez pas les élus du germanois. La dernière question que je voulais voir avec vous, Lorenzo Stella Barro, c'était celle de la représentation politique, mais vous entendrez cet électeur, par exemple. battu, il faut le dire, par le maire sortant de Saint-Germain de Serge-Manois, dire le plus grand mal de lui. Disons que le maire s'appelle Monsieur Duclos.
Et puis il y a tous les pavillons, avec des vieux qui sont là. Surtout, faut pas que ça bouge. Je sais, il y a mon père qui est dedans. Surtout, faut pas que ça bouge, quoi. La ville a le temps de crever, c'est pas grave, nous on va crever aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'on nous foute la paix, quoi. Voilà, donc il y a le Jean-Paul, voilà. Jean-Paul, on le connaît depuis 20 ans. Moi, je discute un jour avec un mec, je lui dis « Mais de toute façon, toi, t'as voté Duclos. » Il me dit « Bah ouais, j'ai voté Duclos, mais je le connais depuis 30 ans. » Je dis « Et alors, depuis, tu sais quand même que depuis 30 ans, tu le sais qu'il est con comme un manche. » « Oui, mais c'est le Jean-Paul. » Donc, il y a une espèce de fatalisme. Dans le coin, c'est ça aussi, qui tue Saint-Germain. Une espèce de fatalisme. Voilà, c'est comme ça. Bah, on va mourir, bah, c'est comme ça.
Alors, tout serait fermé aussi du côté politique. Le maire ne serait pas à la hauteur. Il ferait de la politique pour cumuler des indemnités, etc., etc. Lorenzo, les groupes supérieurs dans le Germanois, ils s'intéressent encore à la lutte pour le pouvoir municipal?
Les groupes supérieurs qui résident, pour certains d'entre eux, oui. Les groupes les plus supérieurs ne résident pas. Ils font que passer, ils ont une mobilité très forte. Ils ne sont pas forcément investis sur le pouvoir local. Par contre, la petite bourgeoisie locale, qui est étudiée par Yvan Bruno et Nicolas Renaï, les collègues montrent très bien comment il y a des divisions sur la petite bourgeoisie locale, entre une petite bourgeoisie culturelle qui investit massivement, le conseil municipal, les positions de maire, etc., et d'autres petites bourgeoisies plus anciennes, plus établies pour certaines, qui ont d'autres types de compétences, bourgeoisie technicienne, des agriculteurs évidemment, qui pour certains d'entre eux, plus gros exploitants notamment, investissent la scène municipale. Et donc il y a un jeu politique local qui est structuré entre ces groupes essentiellement, du moins du point de vue des candidats et de qui occupe les positions au conseil municipal.
Il y a encore du jeu vraiment, et est-ce qu'il y a du jeu pour des gens issus des classes populaires?
Alors, je pense que c'est une constante au-delà du germanois. L'exclusion des catégories populaires des milieux politiques est quelque chose de très général. Je dis exclusion, il y a une part d'auto-exclusion, mais il y a aussi un ensemble de mécanismes qui va les bloquer. Mon collègue Benoît Coquart, qui est sociologue à INRA de Dijon, dans l'ouvrage, montre très bien qu'il y a des femmes des catégories populaires, par exemple Sandra, dont je vais vous parler là, qui sont tout à fait capables de tenter de s'investir en politique, qu'ils font pour des raisons très précises, mais bon, en l'espèce, elle perd, elle se présente à la
alors,
mairie.
Petit portrait de Sandra.
Alors Sandra est une jeune femme de 24 ans que Benoît Coquart suit dans le temps, bien avant l'élection. Il la connaît de longue date, il fait une enquête ethnographique très ancrée. Et ce qu'il met en avant, c'est que c'est cette femme issue des catégories populaires dont les parents travaillaient à l'usine locale, qui avait misé pour ses débouchés professionnels sur un travail aussi dans cette usine locale. Quand l'usine est délocalisée et ferme, elle perd tout un ensemble, toutes ses projections, toutes ses aspirations, tout ce qu'elle souhaitait faire dans la vie. Parallèlement, elle n'avait pas forcément beaucoup misé sur l'institution scolaire, qui lui a pas toujours laissé toutes ses chances non plus, si on y regarde de près. Et elle se retrouve dans un espace des possibles relativement bloqué. En 2014, du fait de son autochtonie, vous en parliez, de ses rapports sociaux localisés, notamment de son groupe d'amis très important, un groupe de jeunes qui sont dans des situations précaires comme elle, très peu diplômés, avec assez peu de ressources, ils vont se mobiliser collectivement pour contribuer à ce qu'elle soit inscrite sur une liste électorale locale, parce que l'ancien maire, en fait, un ingénieur agronome, cherche des gens pour étayer, pour étoffer sa liste, et par un de ses amis, elle obtient une place sur cette
mais
liste.
Mais elle est battue à plate couture, mais elle persiste.
Elle persiste, elle va, on va dire, reconvertir ses engagements sur la liste municipale dans l'association des fêtes locales, elle va s'investir dans la vie publique locale, et elle va, au gré de ses engagements pour la collectivité de manière localisée dans son bourg de 3000 habitants, elle va contribuer aussi à, pour reprendre ces termes, à se racheter une image, alors qu'avant elle était relativement dévalorisée dans l'espace local par un certain nombre de personnes qui la traitaient avec un racisme de classe, de cassos, de personnes en difficulté, etc.
C'est une conjurée. Juste un mot d'ailleurs, puisque vous parlez de cassos. On voit souvent dans les villages maintenant, Gilles Ferté, des zones où sont les plus pauvres, où ils sont accueillis par la municipalité parce qu'ils permettent peut-être de maintenir l'école, et on appelle ça les HLM, alors que ça n'en est pas, ou le 93. Il y a du 93 dans des villages de 200 habitants dans le Germanois ou ailleurs.
Alors oui, c'est ça qui est important, je pense, et qui fait une forme de conflictualité politique des espaces ruraux, c'est qu'il y a plusieurs usages. Il y a un usage récréatif, patrimonial, paysager, qui est plutôt des classes supérieures urbaines. Un usage productif, l'agriculture, le bois ou d'autres secteurs primaires, comme ça, d'une économie présentielle aussi du bâtiment. Et il y a un usage de plus en plus social, avec des HLM, on pense au centre des migrants, enfin pour les migrants, les accueils. Donc il y a une multiplicité de groupes sociaux et d'usages sociaux des campagnes qui créent la sociologie qu'on a observée dans ce germanois qui est tout sauf unique et qui se répète à l'infini.
et on ne saura toujours pas, puisqu'il est multiple en fait, où est le germanois. Merci à vous Lorenzo Barro Stella, Gilles Laferté. Ce livre aux éditions de l'EHESS, Monde Ruraux et Classe Sociale. Étienne Bertin à la réalisation, Philippe Duclos à la technique, Franck Olivard à la préparation.